Mon nom est Yann Hamel, je suis professeur à la Téléuniversité et je vais agir ce soir à titre d'animateur et de modérateur de la soirée. Il y a 20 ans, Marc Angenot faisait paraître 1889 un état du discours social. Après avoir réalisé un travail de recherche, d'analyse et de synthèse monumental, après avoir non seulement lu, mais après avoir systématisé un échantillon considérable de l'ensemble de ce qui s'est publié en France, en Belgique et en Suisse au cours de l'année 1889, Marc Angenot expose la théorie du discours social. Décloisonnant les genres du discours et montrant comment, loin de fonctionner en vase clos selon leurs règles et leurs traditions propres, la poésie, les discours scientifiques, les chroniques des journaux, le roman populaire, pour ne nommer que quelques exemples, comment tous ces genres entrent en fait constamment en interaction dynamique, obéissant à des lois communes, s'inscrivant dans un même espace d'intelligibilité. Dans le sillage de la théorie du discours social, Marc Angenot reprend, adapte, élabore une série de concepts, hégémonie, romanesque générale, division du travail discursif, qui lui permettent de penser le phénomène qu'il appréhende. Depuis, la théorie et les concepts sont à leur tour abondamment repris, adaptés, discutés, critiqués par d'autres chercheurs des différentes sciences du langage et sciences humaines. Sociocritique des textes, rhétorique, théorie de l'argumentation, histoire culturelle, histoire des idées, politologie, etc. Le travail de Marc Angenot est à ce titre doublement décloisonnant. Décloisonnant les genres du discours analysé, il décloisonne aussi les disciplines universitaires qui tendent trop souvent à vouloir fonctionner en vase clos. Second décloisonnement qui n'est pas toujours pour plaire aux différents spécialistes des dites disciplines universitaires. L'anniversaire de cet ouvrage ne sera pas l'occasion d'un hommage, pas seulement du moins, il ne sera pas l'occasion d'un encensement et encore moins d'un embaumement, mais il sera au contraire l'occasion de poursuivre la réflexion, de montrer que la théorie du discours social est toujours vivante, qu'elle continue à alimenter la réflexion et parfois la critique. C'est pourquoi le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes a ce soir convié 4 spécialistes qui s'intéressent à des aspects variés de la littérature et de la culture. Nos 4 participants sont venus présenter leurs recherches propres en mettant de l'avant non seulement la dette qu'ils auraient pu contracter à l'endroit de la théorie du discours social, mais aussi les problèmes et les difficultés que cette théorie les a fait rencontrer, les objections qu'elle les a amenés à soulever. C'est la raison pour laquelle la soirée est sous-titrée « Questions à Marc Angenot ». Avant de présenter les invités et de commencer la soirée proprement dite, je vais laisser la parole à M. Angenot qui désire vous dire quelques mots. J'en profite pour mentionner que la soirée est enregistrée sur Radio Spirale. Au moment où vous aurez des questions à poser ou des interventions, il faudra vous assurer d'avoir le micro en main, non pas pour amplifier le son de votre voix, mais bien pour l'enregistrer, qu'il soit audible à la radio. Je vous donne la parole, M. Angenot.
Chers amis, j'avais la possibilité soit de parler après, soit de parler avant. Je pense qu'il est plus prudent que je fasse un commentaire avant et que je remercie d'abord de tout cœur Yann Hamel et mes 4 amis et intervenants. Je crois que je préfère me cantonner dans un rôle de figurant ce soir, de ne pas justement avoir à commenter, puisqu'il y a 2 possibilités. Ou l'auteur s'imagine bien à tort qu'il sait ce qu'il a voulu écrire, et auquel cas il est évidemment très étonné de ce qu'on prétend qu'il a fait, ou au contraire, ce qui est généralement la théorie que nous défendons en tant que professeur, l'auteur n'a absolument pas voix au chapitre, et c'est nous qui sommes du reste payés pour commenter son œuvre. Donc je préfère la seconde situation, je m'abstiendrai d'intervenir. Je voulais dire cependant que, dès le départ, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Yann Hamel, parce que je n'ai pas écrit seulement en 1889, j'ai en fait écrit à l'époque et publié 4 bouquins, hein, l'un qui s'appelle « Ce que l'on dit des Juifs » en 1889, l'autre « Le cru et le faisant des sexes et discours social », le troisième « Topographie du socialisme », et à la fin, il restait dans mon garage 4 ou 5 sacs poubelles pleins de fiches, qui aurait fourni largement la matière à 4 ou 5 autres ouvrages, et j'ai préféré m'abstenir. Donc, voilà.
Je remercie Marc Angenot pour cette intervention. je vous explique le déroulement de la soirée. Je vais commencer par présenter chacun de nos quatre intervenants les uns après les autres, avant de leur céder la parole. Chacun d'entre eux va parler une dizaine de minutes. Une fois que leurs quatre interventions seront passées, je donnerai la parole à la salle pour que s'amorce une discussion d'ensemble autour des questions qui auront été soulevées. Donc, nos quatre intervenants, dans l'ordre où ils vont parler. Notre premier participant est à ma droite, mon collègue Paul Bleton, qui est professeur à la TELUC, l'Université à distance. Ses travaux, fort nombreux, portent sur la littérature et la culture populaire, et plus précisément sur le roman de masse. Ses livres et ses articles couvrent, c'est le moins qu'on puisse dire, un immense territoire dont ils explorent les différentes facettes. Paul Bleton travaille actuellement à un projet consacré aux adaptations de la fiction populaire, du mélodrame aux premières séries télévisées. Deux de ses livres seront bientôt publiés, ce qui est pas mal. Tout d'abord, La cristallisation de l'ombre, les origines oubliées du roman d'espionnage sous la Troisième République, qui est à paraître aux presses universitaires de Limoges. Ce livre est en fait le deuxième opus de ses recherches sur le sujet, à la suite d'un livre qui est paru en 1994 intitulé « Les anges de Machiavel, essai sur l'espionnage », publié chez Nuit Blanche. Son autre ouvrage à paraître est très attendu, non seulement par moi-même, mais par plusieurs autres personnes ici présentes. Il s'intitule « Combat, récits de guerre et imaginaire militaire en France ». Il sera publié par Nouveau Monde Éditeur. Encore une fois, cet ouvrage sur la guerre se situe dans le sillage de travaux précédents, notamment d'un ouvrage coécrit avec Désiré Niella, qui est intitulé « Ligne de front, le roman de guerre dans la littérature africaine », qui est paru cette année aux presses de l'Université de Montréal. On lui doit aussi, toujours aux presses de l'Université de Montréal, un livre sur Louis Aymon, « Le vagabond stoïque », écrit en collaboration avec Mario Poirier. Deux ouvrages sur le western, le dernier en fait intitulé « Western France » qui est paru aux Belles Lettres en 2002 et « Les hauts et les bas de l'imaginaire western », un collectif qui a été publié en 1997 chez Triptyque. Je pourrais poursuivre le détail de ces recherches et de ces publications encore longtemps, mais je préfère m'arrêter ici. Paul Bleton parlera, comme vous l'avez sans doute deviné, des échanges entre théorie du discours social et travaux en littérature populaire. Notre deuxième participant, le jeune Olivier Parenteau, est stagiaire postdoctoral. Donc, il est stagiaire postdoctoral à l'Université de Liège, où il va bientôt se rendre à Liège pour travailler à un projet portant sur les guerres de Louis Aragon. Avant de se lancer dans cet ambitieux programme, il a brillamment soutenu cet automne une thèse intitulée « L'honneur des poètes, grande guerre et modernité poétique, Apollinaire, Cocteau, Drieu-La Rochelle, Éluard ». Thèse qui, nous l'espérons tous, trouvera un éditeur sous peu. Vous l'aurez compris, Olivier Parenteau est spécialisé dans l'analyse du genre de la poésie et plus précisément de la poésie de guerre qu'il aborde dans la perspective de la sociocritique des textes, comme il se doit pour un membre fondateur du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes. Olivier Parenteau a dirigé de nombreux collectifs. Notamment, il y a un dossier à venir qui sera consacré à la guerre dans la littérature québécoise, co-dirigé avec Michel Biron, qui paraîtra dans la revue Voix et Images. Il y a aussi un collectif sur ce que nous avons appelé l'École de Montréal, qu'il a co-dirigé avec votre humble serviteur et qui est paru l'année dernière dans la revue Spirale. On doit à Olivier Parenteau plusieurs articles sur la poésie de 1914-1918, mais aussi des contributions à l'étude de la poésie française du 19e siècle, notamment un Tristan Corbière, lecteur de François Villon, qui est paru en 2006 dans la revue Études littéraires. Olivier Parenteau a accepté pour ce soir de délaisser les massacres industriels du 20e siècle afin de reprendre sa casquette de 19e-iste. Il va ce soir examiner et questionner la place qui est faite à la poésie et, si je ne m'abuse, plus particulièrement à Paul Verlaine dans 1889. Ce sera ensuite à Geneviève Sicotte de prendre la parole. Geneviève Sicotte est professeure de littérature du 19e siècle à l'Université Concordia. Elle est spécialiste de la sociocritique, de la littérature décadente et symboliste, des discours du luxe, des discours gastronomiques et des représentations du repas dans le roman. Ses travaux actuels portent sur les représentations de la richesse dans l'avant-garde littéraire de la Belle Époque et sur l'esthétique du bibelot dans la fin de siècle. On lui doit un livre qui, je l'ai appris en préparant cette présentation, a eu le privilège d'être republié l'année dernière. C'est un livre qui s'intitule « Le festin lu, le repas chez Flaubert, Zola et Huysmans », qui a été republié chez Liber en 2008. Elle a également dirigé un collectif, publié dans la revue Études littéraires en 2007, qui porte sur l'année 1857, donc un état de l'imaginaire littéraire. On peut déjà voir des liens explicites avec l'ouvrage dont nous allons discuter ce soir. Son intervention va porter sur les liens entre la culture matérielle et le discours. Et enfin, la parole sera donnée à Michel Pirsens, qui est professeur de littérature à l'Université de Montréal. Michel Pirsens a consacré de très nombreux travaux et d'importantes publications aux problèmes posés par la rencontre de la littérature et des savoirs. Ses travaux actuels portent sur les rapports entre littérature, science et parascience au début du 19e siècle jusque vers 1925, ainsi que sur la vie littéraire fin de siècle en France et au Québec. Le portail électronique qu'il dirige et qu'il a créé en 2007, epistémocritique.org, est consacré à l'actualité des recherches sur la littérature et les savoirs. Michel Pirsens a également été le fondateur de la revue Substance, qui publie des numéros depuis 1970. Je n'ai évidemment pas le temps ce soir de détailler l'ensemble de ses publications. Je mentionnerai toutefois quelques titres. Hein, « Savoirs à l'œuvre, essai d'épistémocritique » qui est publié aux Presses universitaires de Lyon. Un collectif consacré aux savoirs de Proust publié dans la collection Paragraphe. « La tour de Babil » aux éditions de Minuit. « L'Autréamont, éthique à Mal d'Aurore » aux Presses universitaires de Lyon. Michel Pirsens a aussi publié sur ses thèmes de prédilection dans des collectifs et dans des revues telles que Critique, Le Débat, Littérature, Les Temps modernes, Ethnologie française, Diogène, Revue des sciences humaines, j'en passe. Il anime en outre depuis plus de 10 ans le très couru Colloque des Invalides qui réunit chaque année des chercheurs et des écrivains au Centre culturel canadien de Paris. Michel Pirsens parlera ce soir de la place qui est faite au discours scientifique dans 1889, un état du discours social. Bon, sans plus tarder, je n'ai déjà que trop parlé, je cède la parole à Paul Bleton, qui va vous entretenir, comme je vous le rappelle, des rapports entre littérature populaire et discours social.
Merci pour la présentation. Comme tu le rappelais tout à l'heure, j'ai un peu écrit sur la littérature militaire, donc je n'allais pas louper l'occasion de faire un titre le rappelant, le romanesque général a encore pris du galon. 1889 débalance l'épaule du balancier métalittéraire, histoire d'un côté, théorie de l'autre, par 4 interférences concertées. 1. Ancrage empirique dans un corpus, mais primauté de l'entrée par le texte. 2. Texte complètement défétichisé, puisque l'arbitraire rigoureux de la coupe synchronique à la fois promeut l'imprimé et non plus la littérature, et sert d'antidote au péché mignon des études littéraires à ne questionner la littérature qu'à partir d'un impensé, un canon servant surtout à inapercevoir son mode de constitution. 3. Promotion de l'imprimé permettant de saisir la compétition entre culture lettrée et culture médiatique. Promotion de l'imprimé parce que son hégémonie recalibre et requalifie des formes d'oralité utilement recyclables, oratoire comme parangon de l'argumentatif, théâtral comme parangon de l'expressif, et en minorise largement d'autres. Ainsi, c'est surtout après la guerre de 14 que la coexistence, pas toujours pacifique, de sociolectes dans une langue devient un fait littéraire. Promotion de l'imprimé parce que son hégémonie recalibre et requalifie l'image, notamment en voulant l'ancillariser à l'imprimé de grande diffusion. 1889 n'en parle pas beaucoup, mais l'image aura l'occasion de se venger de ce recalibrage et de cette requalification au moment où la culture médiatique aura surclassé la culture lettrée. Et 4, théorisation par l'adaptation ou l'invention de concepts que Yann rappelait tout à l'heure, théorisation développée dans sa liaison organique avec l'invention d'une méthode en fonction du corpus synchronique et disparate. Je ne vais évidemment pas insulter votre intelligence de lecteur, ni celle de l'auteur dont je salue l'œuvre en soulignant la consistance théorique de son 1889, ou en lui chapardant négligemment tel ou tel bouquet d'idées. Voici plutôt deux ou trois moments où ma propre recherche a ressenti l'aimantation de 1889. Je m'empresse d'ajouter, devant les sourcils possiblement froncés de Marc, qu'il ne s'agit évidemment pas de l'embaumement dont il était question, mais plutôt d'une aimantation productive, même dans le désaccord. Deux ou trois moments, donc, où, en faisant l'histoire de genre populaire, je me suis servi d'instantané de 1889 comme repère. Le premier, le modèle américain. Je cite 1889. « Cette image de l'Amérique comme l'avenir fatal et impensable de la vieille France s'est imposée comme l'angoissant présupposé de tout discours sur la nation yankee. À quoi s'ajoute qu'il faudra un siècle au discours social français pour émerger d'un effarement où alternent le rire incrédule et l'indignation. » Or, avant 1918, l'effarement, qu'il soit incarné en cliché, sudiste avantageux au sang chaud, nordiste mercantile et bigot, jeune femme dont la liberté demeure s'étonne, ou de manière franchement plus hostile, comme dans la pièce « L'oncle Sam » de Victorien Sardou, ou le roman populaire « La conspiration des milliardaires » de Gustave Lerouge, cet effarement masque une indifférence plus profonde. À la fin du XIXe siècle, contrairement à d'autres pays d'Europe, l'émigration française vers les États-Unis était relativement peu importante et la France écoulait peu de produits américains de grande consommation. Il faut attendre les années 30 pour que les intellectuels s'inquiètent, redonnent vie au topos de l'Amérique comme futur de la culture française. Inquiétude raisonnée d'abord chez Paul C. en 1903 ou Octave Noël en 1899, devant la montée en puissance économique des États-Unis, ou irritation pamphlétaire de Georges Duhamel, le plus connu de cette bande, qui a publié en 1931. C'est avec la guerre froide que les industries culturelles se trouvent fortement concurrencées sur leur terrain par les produits de la pop culture américaine et doivent réagir. À ce moment-là, effarement, clichés, anti-américanisme pamphlétaire ne sont dès lors plus suffisants. C'est lorsque j'ai tenté de comprendre l'imaginaire français de la conquête de l'Ouest américain que j'ai aperçu la complexité de ce qui y avait succédé. La relation au modèle américain sous-tend la réorganisation des genres paralittéraires durant les Trente Glorieuses, et c'est surtout faite à travers le métagenre, ou le grand genre, la grande famille de l'aventure. Pour s'implanter dans des collections spécialisées, le modèle américain a besoin de trois conditions. En amont, l'existence préalable d'une tradition française dans le domaine. Concomitamment, une pertinence pour le lectorat, une interrelation entre un texte, la situation sociale immédiate de ses lecteurs et les usages qu'ils peuvent en faire pour donner du sens à leur expérience de vie. Et enfin, en aval, l'institutionnalisation nécessaire pour en assurer la pérennité et la légitimation relative. Or, de tous ces points de vue, le western se singularise par rapport aux autres genres de l'américanisation de l'aventure. Contrairement aux périodes précédentes, la contribution des auteurs français de Western reste faible, les importations majoritaires, les contours thématiques du genre épousent moins facilement les préoccupations du lectorat. Alors qu'il y a coalescence de l'idée de modèle américain avec la science-fiction lue en France, et plus spécifiquement avec le space opera, aventure de la conquête du futur plus ou moins fortement technologisée, alors que le présent menacé de la guerre froide a servi de programme au roman d'espionnage, récit de la protection du bloc occidental mettant en scène des espions au service de la CIA, alors que le thriller a facilement été recyclé en polar, récit de la modernité urbaine et du présent problématique, le western, lui, présente un paradoxe. Contrairement à ces genres du futur ou du présent problématique, qui proposent un modèle, une virtualité pas encore réalisée mais déjà pourvue d'une forme, l'Amérique comme futur de la culture française, le western appartient au passé des États-Unis, passé du futur en quelque sorte, pour un lecteur français qui n'a pas besoin de l'Ouest pour se retrouver dans son passé national, qu'on pense à Alexandre Dumas évidemment. Le western occupe immédiatement une position ambiguë, il conjoint virtualité et passé, emblème de l'Amérique, elle-même modèle générateur d'ambivalence dans la culture française, mais d'une Amérique révolue. Ambiguïté rappelant l'irréel du passé, dont la grammaire dit que seul le contexte permet d'en discriminer le sens du potentiel. Deuxième moment, l'envers du grand récit de la France en armes. 1889 note l'homogénéité hégémonique de ce qui s'écrit sur l'armée, à peine entamée par un contre-discours pacifiste très minoritaire. Sur fond d'un universalisme patriotique et systémiquement solidaire avec l'ethnocentrisme germanophobe, xénophobe, antisémite et raciste, cette homogénéité discursive mimerait l'homogénéité de l'institution militaire au début de la Troisième République, magnifiée par contraste sur un fond d'aléas politiques, d'incertitudes, d'où elle se détache. Or, lorsque j'ai entrepris une histoire de la fiction de la guerre en France de 1870 à la fin du service militaire obligatoire en 2001, cette quasi-universalité du respect m'a semblé suspecte en regard de l'ambiguïté des relations de la fabrique du récit de guerre à l'endroit de l'armée. Jusqu'à la guerre de 14, le monologisme respectueux se voit plutôt fissuré, relancé, contredit au sein de la fiction de guerre. À l'armée n'échoit pas souvent le beau rôle. Le grand récit de la France en armes a comme ombre porté un discours beaucoup plus pessimiste sur l'armée. Premier étage thématique de critique, l'armée imbécile. Stupidité tracassière d'une armée qui ne se bat pas, se sent mal aimée, se calfeutre dans son isolement et sa routine. Plus grande généralisation de l'expérience militaire dans la société, nonobstant les ambiguïtés de son mode de recrutement. Dans des conditions propices comme ça, éclot à la fin des années 1890 une littérature sarcastique s'en prenant à la bêtise militaire, largement fondée sur des types, le comique troupier à la Charles Leroy, à la Oscar Méteignier, à la Alphonse Allais. Au sarcasme, un Jean Drault substitue une moquerie bon enfant, un Georges Courteline, une dénonciation bouffonne, parfois amère, du règne de l'arbitraire, de la méchanceté des chefaillons et des troupiers, de l'abrutissement de la corvée, de l'ennui, des mesquines ruses qui y répondent. Deuxième étage, l'armée perverse. Le chevalier Miseret d'Abel Armand, qui paraît en 1887, narre l'ascension et la chute d'un homme obtus, à qui les choses adviennent plus qu'il ne les choisit. Révélé à lui-même par la vie militaire, appréhendant le monde à travers le prisme de son seul univers régimentaire, il devra sa dégradation à une tentatrice, la femme de son capitaine. Si ce roman, ainsi que « Élève martyr » qui paraît en 89 de Marcel Luguet, sont sévèrement reçus, « Sous-off » de Lucien Descaves, qui paraît la même année, fait tout un immense scandale en ajoutant aux dénonciations connues celle de la prostitution des officiers. Son auteur sera même traîné devant un tribunal pour outrage aux bonnes mœurs et injure envers l'armée. Troisième étage, l'armée suscite la révolte. Dans « L'homme qui tue » d'Hector France, en 1878, c'est un sous-lieutenant qui, face aux exactions et aux massacres en Algérie puis pendant la Commune, en vient à l'antimilitarisme. Chez Georges Darrien, cet antimilitarisme s'incarne dans « Biribi » en 88, tiré de sa propre expérience des compagnies disciplinaires de Tunisie, puis dans un des rares romans de la défaite, « Bas les cœurs » en 89, et dans une acerbe critique de l'esprit militaire avec « L'épaulette » en 1905. Quatrième étage, plus subtilement inquiétant, le soldat français est fragile. Là, la critique s'actualise très diversement. L'éclat de la gloire militaire, coloniale, plus propice à redorer le blason de l'armée, ne va pas sans ses ternissures. Le héros colonial à la Loti, lui-même, n'échappe pas au scepticisme. Mésadaptation au milieu, sentiment d'exil, ennui et compensation dans l'alcool et l'opium, face à une situation subie qu'il ne peut transformer, le soldat de papier, pourtant censé relever de la catégorie de l'action, rejoint la neurasthénie bourgeoise. Détresse du corps, détresse de l'âme. Non content de ne pas s'imposer politiquement de manière décisive, le soldat colonial y est celui qui souffre. La littérature populaire raconte, en de multiples intrigues, cette fragilité du soldat, expression d'un manque de confiance en l'armée au sein même de la littérature patriotique. C'est notamment le fonds de commerce d'un Jules Marie, avec des romans comme « Guet-apens », paru en 89, « Le régiment » l'année suivante, ou « Pantalon rouge », qui paraît en 94. Quant à la défaite de 1870, elle est loin d'être ignorée sous forme de rappel ou sous forme de prédiction. De la périphérique mémoire du soldat des nouvelles d'Alphonse Daudet en 73 ou du collectif des soirées de Médan en 80 jusqu'à l'ampleur reconstructive de la débâcle d'Émile Zola en 92, le soldat romanesque de 1870 peut bien se trouver réhabilité et ses chefs condamnés. Le récit n'en était pas moins le rappel de l'échec de l'armée. Le grand récit de la France en armes devait permettre de suturer cette défaite avec le souvenir de l'héroïsme désintéressé des francs-tireurs, avec la double face de la mémoire longue, rancune des Prussiens et rêve de revanche française, avec le roman de guerre future, avec la structurelle absence de passé dans le roman militaire colonial et dans la stratégie fiction extra-européenne. Or, l'ombre portée de l'armée s'interposait entre quiconque aurait voulu se souvenir et le moment à mémoriser, l'été 1870. Armée ridicule, perverse, révoltante, prospectivement ou rétrospectivement ramenée à quelques défaites, rappelée à la fragilité de son soldat. Contre-discours bien plus efficacement pernicieux et bien plus central que celui des pacifistes. Déshomogénéisation discursive présupposant l'institution militaire magnifiée pour en dénoncer la baudruche inane. Ce ne sera pas trois, mais deux moments donc, dont je vais parler. J'aurai à garder pour plus tard le romanesque général. J'aurais bien commencé par le roman populaire « Recherche en paralittérature », un des ouvrages de Marc, si je n'avais redouté que l'organisateur de cette table ronde ne se dise « il n'a pas compris qu'il s'agissait de l'anniversaire de 1889, triste occurrence d'un boomer au disque devenu un peu trop dur ». J'aurais bien commencé par le roman populaire, et pas simplement par nostalgie, même si c'est un peu après sa parution que j'ai connu Marc. J'aurais bien commencé par le roman populaire parce que la rencontre de son auteur a alors été déterminante pour ma propre carrière, pour ma propre recherche. J'aurais bien commencé, mais il me faut finir, sans pathos donc, en lui levant mon verre, rempli d'un 1889, cuvée rare, vieilli, non pas en fût, mais en deviendra.
Alors, merci Paul Bleton pour cette intervention qui a entre autres le mérite de montrer que la littérature populaire n'est pas aussi consensuelle qu'on veut bien le croire, mais qu'elle est capable de critiquer, de jouer sur des paradoxes et de soulever des problèmes dans les hégémonies discursives d'une époque. Je laisse maintenant la parole à Olivier Parenteau qui va nous parler de la poésie.
Banalisation et raréfaction du poétique, c'est le titre du 36e chapitre de 1889, un état du discours social, chapitre qui constitue certainement l'abrégé de poésie française de la fin du 19e siècle le plus démoralisant qu'il m'ait été donné de lire. Il y a banalisation du poétique parce que la demande populaire pour ce genre est soutenue et parce que les poètes désireux de satisfaire l'intérêt de ce large public pour la chose rimée ne manquent pas. En 1889, l'ordinaire de la poésie sature littéralement le paysage poétique. Et ne nous méprenons pas sur le sens qui est ensuite accordé à la raréfaction du poétique. Elle ne permet pas de rappeler, comme on pourrait s'y attendre, que dans cet insipide brouhaha diversifié, les œuvres esthétiquement audacieuses se font rares. Non, le terme est ici employé dans son acception scientifique, comme on dit par exemple d'un gaz qu'il se raréfie lorsqu'il perd de sa densité. La raréfaction du poétique, c'est le vide sémantique de la poésie moderne. Ce sont les artefacts abstrus et abscons que mettent au point les poètes regroupés sous la bannière du symbolisme. À en croire Angenot, la totalité de ce qui se publie en poésie au cours de l'année 89 est en situation d'échec. Tout n'est que œuvrette, prévisible confession, niaiserie à tonnes, celui-là j'aime beaucoup, poésie moyenne, flux désémantisé et j'en passe. Les poésies qui concourent à la banalisation du genre sont des textes solidement ancrés dans le doxique, qui lui emboîtent le pas en vers bien tapés, qui sont, comme l'écrit Angenot, lisibles, prévisibles, touchants, conformes au ronron traditionnel. toutes ces œuvres versifiées qui témoignent du fait qu'il existe bel et bien un degré zéro de la poésie alimentent une ironie savoureuse qui se déploie à chaque page. Comme par exemple lorsqu'Angenot cite ces vers de telle poétesse de salon « À 16 ans, que la vie est douce, tout est beauté, tout est bonheur, les chemins sont couverts de mousse et bordés de suaves fleurs. » Et quand Angenot les commente en ces termes, la jeune fille à marier est censée révéler aux amateurs éventuels toute la candeur de son âme virginale. À mi-chemin entre cette banalité poétique et les œuvres avant-gardistes dans lesquelles ce qui fonde la spécificité du poétique se raréfie, Angenot écrit, je cite, « qu'il faut compter en effet avec un autre groupe qui au moins prétend à l'innovation et à la provocation et qu'on peut appeler les baudelairiens ». Mais ici, le problème est double. Premièrement, aucun élève n'a dépassé le maître. Deuxièmement, ce qui ressort du modernisme baudelairien en 89, ce sont les thématiques de la ville moderne, de l'amour vénal et de la dépravation sensuelle. Dans « Les fleurs du mal », ces topics étaient quintessentiés. Chez les poètes dont il est question dans le livre qui nous intéresse, non seulement ces motifs se figent, mais en plus, ils font chambre d'écho au discours social contemporain qui, écrit Angenot, se montre fasciné et angoissé par les décadences sociales, par les effondrements moraux et les dégénérescences. Le non-conformisme de ces poésies n'est donc que de façade. Elles sont en réalité marquées par une véritable dépendance aux stéréotypes triviaux et ne disent finalement pas autre chose que ce que tout le monde pense. Les poètes symbolistes, maintenant, entendent pour leur part versifier des œuvres qui ne soient pas superposables à tout ce raffio littéraire, l'expression est du maître. Et quels sont donc les coûts de cette opération? Une sacralisation de la forme, un cloisonnement par l'hermétisme du langage poétique et un bricolage transformant en aristocratie et en sacerdoce le dédain des idées publiques. L'objectif que se sont fixés les symbolistes, qui est, je cite, « d'établir l'étanchéité parfaite du livre et de le couper du flux de la doxa », était voué à l'échec parce que, de toute manière, tous les mots, tous les énoncés sont à divers degrés socialisés, qu'il n'y a pas de langage social pur. C'est pour ça qu'Angenot parle de bricolage et de simulacre langagier quand il évoque les poésies symbolistes. Leurs auteurs ont voulu être absolument modernes en n'étant absolument pas de leur temps. Mais ce faisant, ils ont perdu de vue que la poésie, comme n'importe quelle autre production discursive, est nécessairement construite et motivée en contexte. Alors j'ouvre maintenant une série de remarques sur ce chapitre de 89 et je dis tout de suite que l'accent va être mis sur la modernité poétique et le symbolisme plus particulièrement parce qu'à mon avis, c'est là que les rapports que la théorie du discours social entretiennent avec le texte poétique sont les plus problématiques. Mais je voudrais d'abord dire ceci, c'est que méthodologiquement parlant, le discours social ne connaît pas de frontières, il prend tout en ligne de compte, ne discrimine pas les textes sur la base de critères scolaires, donc il n'y a pas de cette distinction entre littérature populaire et littérature consacrée, comme l'a bien fait remarquer Paul Bleton. Toutes les œuvres produites dans l'état de société considéré doivent être prises en charge, et c'est la diversité de l'objet d'étude qui garantit justement la solidité de l'échafaudage théorique. Par contre, théoriquement, ce que le discours social cherche à faire, en fait, ça consiste à faire apparaître l'imposition massive de régulations, de contraintes, de présupposés, l'entropie puissante du « déjà là ». Alors, on voit apparaître le contraste. D'un côté, on reconnaît l'existence d'une multitude de textes poétiques aux factures esthétiques diversifiées, mais de l'autre, on considère qu'il existe une sorte d'au-delà du texte poétique, une hégémonie discursive, c'est-à-dire, je cite, « un ensemble de mécanismes unificateurs et régulateurs qui assurent à la fois la division du travail discursif et un degré d'homogénéisation des rhétoriques et des topiques ». D'emblée, la diversité du corpus poétique considéré est comme lissée par le rouleau compresseur d'Oxa, et on se demande si, en voulant tout prendre de la poésie, la théorie du discours social n'était pas fatalement conduite à le rejeter dans son ensemble. Parce que, pour le théoricien du discours social, le théoricien du discours social ne part pas en se disant que la poésie est capable d'aller au-delà de l'acceptable discursif de son époque, mais en se disant au contraire que les marges de manœuvre de l'innovation et du dire autrement sont extrêmement réduites et limité. Donc, on a vu ce que ça a donné d'un bout à l'autre du 36e chapitre de 1889, où la qualité du poétique est jugée à l'aune de sa capacité de résistance au discours social. La pauvreté esthétique des œuvres est généralisée. Pas un poète n'est parvenu à se dépêtrer du disciple de son époque. Les symbolistes ont, pour leur part, offert de la résistance, mais, nous dit Angenot, la stratégie considérée, qui est le contournement du discours social, n'était pas la bonne. Ils ont imaginé qu'il était possible d'interdire au poème, par une rhétorique de l'autoreprésentation, toute perméabilité aux idéologèmes courants, Mais c'était peine perdue, étant entendu que tout paradoxe s'inscrit dans la mouvance d'une doxa. Sur ce point, je suis d'accord avec Marc Angenoux. Tout poème est poème de circonstance. Le réel fournit l'occasion et la matière de n'importe quelle entreprise poétique. La poésie est nécessairement en prise sur le social et elle s'inscrit dans les débats discursifs qui lui sont contemporains. Mais pourquoi alors, après avoir justement rappelé que les poètes symbolistes ont, je cite, « créé dans le discours social quelque chose qui eut l'air de n'en pas provenir », pourquoi donc ne pas avoir montré de quelle manière leur poésie en provenait de ce discours social et comment elle allait, peut-être bien malgré elle, s'y ravitailler ? Si les simulacres langagiers des poètes symbolistes ne sont finalement pas coupés du référentiel doxique, si le repli sur elle-même de cette poésie est problématique, extrêmement incertain et artificiel, pourquoi avoir insisté uniquement sur les techniques d'asepsie du discours social, surtout que ces techniques qu'ont utilisées les poètes étaient d'entrée de jeu jugées inefficaces? Les symbolistes, comme tout un chacun, ne peuvent se flatter, de parler dans le vide, mais toujours de répondre à quelque chose. Il aurait été intéressant de montrer quand et comment les stratégies d'évitement finissent par répondre et dialoguer avec ce quelque chose. D'autant qu'à mon avis, c'est à ce point de rencontre précis, celui où un dispositif sémantique réputé asocial flirte avec le contingent et le circonstanciel, que ça se met à bouger et à devenir intéressant. Oui, mais me dira-t-on, les enjeux et les figurations d'un tel dialogue, c'est une question de détails, de lecture interne de texte, et ce n'est pas là le mandat d'une théorie comme celle du discours social qui compulse et organise l'ensemble de ce qui se dit et s'écrit dans un état de société donné. C'est vrai, mais j'ai envie de dire que si cette théorie en vient à la conclusion qu'en une année complète, pas un poète, français ou belge, n'a fait paraître ne serait-ce qu'une seule œuvre poétique valable, c'est peut-être parce que, pour montrer comment un poème secoue l'entropie des idées reçues, et pour dégager les effets de sens de cette secousse, on n'a pas le choix d'y entrer dans le texte. Le 36e chapitre de 1889 n'enregistre aucun choc esthétique du côté des poètes de la modernité. Ils auraient tous pris le parti pris d'une négative réaction contre ce qui se dit et s'écrit dans la société qui leur est contemporaine, alors que seule une dynamique action dans ces discours-là aurait permis la création d'une poésie, disons, hétérodoxique. Mais je pense justement qu'il y en a eu, moi, des déplacements et des tremblements dans la poésie publiée en 89, mais que ces derniers, ces déplacements-là, donc, se lisent au détour d'un vers, par le biais d'un enjambement, grâce à une rime, une coupe, par toute une série de procédés stylistiques, lexicaux, qui signifient autant sur le terrain de la prosodie que sur celui de la rhétorique. Ce qui se passe au niveau de l'écriture est de conséquence, et c'est là que le doxique est soumis à du bouger, et c'est là aussi qu'on peut voir émerger des logiques autres. Et je dirais donc un mot au sujet d'un recueil que Marc Angenoux rejette sans ménagement au détour d'une phrase. Je veux parler du « bien médiocre parallèlement » que publie Paul Verlaine en 1889. En condamnant ainsi sans autre forme de procès ce recueil, Angenoux invite bien entendu son lecteur à aller voir ce qui se passe d'un peu plus près. Alors j'ai fait mes devoirs et je suis allé lire le « bien médiocre parallèlement ». J'ai pas le temps de m'étendre longuement sur les poésies qui sont rassemblées là, mais je voudrais parler d'une courte séquence de poèmes intitulée « Révérence parlée ». Il s'agit d'une suite de poèmes dans lesquels la thématisation d'un univers carcéral permet d'établir des rapports d'homologie avec un univers cérébral, qui est celui d'un poète détenu qui prend la plume depuis l'intérieur de la prison. La réclusion du poète coupé du monde extérieur. « Et pourquoi, si j'ai contristé ton vœu, société, me choirais-tu ?» écrit le poète. Donc, la réclusion du poète coupé du monde extérieur est sans cesse associée à l'autoréflexivité caractéristique de son activité poétique. Tout se passe comme si le poète emprisonné n'avait d'autre choix que de se livrer à l'écriture de poésie elle-même enfermée dans un langage autotélique, replié sur lui-même, étanche à la rumeur sociale. La prison est d'abord présentée comme une sorte d'anywhere out of this world providentiel, propice à cette réflexion spéculaire. Fumons philosophiquement, promenons-nous paisiblement, rien faire est doux. Et le silence doux et blanc des cellules de la prison dans laquelle le poète est confiné est associé aux cases en fin cristal de sa pensée. Mais très rapidement, cette réclusion devient pour le poète un dur loisir et, parallèlement, l'exercice poétique autotélique se transforme bientôt en un huis clos têtu. Alors, manière de dire que le rendez-vous du poème avec la poésie est non seulement intellectuel, mais aussi limité. Le poème se termine par une supplique du détenu à son geôlier, « Ouvre enfin, car c'est bon pour une fois, sais-tu ». Alors, j'ai pas le temps de m'étendre plus longtemps sur ce poème, mais il me semble que ce dont on vient de parler entre en contradiction avec au moins deux choses qui sont énoncées dans le 36e chapitre du livre. Dans 89, l'autoréflexivité des poètes modernistes est toujours présentée comme un artifice langagier qui referme le texte sur lui-même, qui sort et le coupe du discours social. Ici, le poème du poème est ironique et les miroirs que le chant se tend réfléchissent une image critique de la rhétorique de l'autoreprésentation en question. Dans 89, la modernité poétique entretient toujours un rapport négatif vis-à-vis de la société. Quand elle ne cherche pas à s'en couper à tout prix, à effacer toutes ses marques, elle la dépeint comme une chose malade, où le poète ou promène son vice, ou son regard désabusé de poète aristocrate exilé au milieu de la foule vulgaire. Ici, la société est au contraire positivement connotée, le poète l'appelle de ses voeux, et cette fois, je ne crois pas que ce soit de manière ironique. Donc, je conclurai rapidement en disant que la théorie du discours social est forcée de minimiser le potentiel sémantique des poésies dont elle traite, parce qu'elle a beaucoup d'autres productions discursives à fouetter, mais c'est malgré tout à partir de ces lectures réductrices qu'elle tire ses conclusions. Dès lors, est-ce que la théorie du discours social est à même de rendre compte de la poésie?
Merci Olivier Parenteau pour cet exposé qui a, entre autres, le mérite de vraiment soulever l'ironie qu'on retrouve dans le livre, qui est l'une de ses belles qualités et qui, en plus, la retourne contre son auteur, ce qui est assez savoureux, et qui nous montre que si l'arbre cache souvent la forêt, comme l'écrit Marc-Angenou, il y a des moments où parfois ce sont les forêts qui cachent chacun des arbres pris séparément. Donc, je vais maintenant passer la parole à Geneviève Sicotte, qui va nous parler, elle, de culture matérielle.
Merci Yann. Je risque d'être beaucoup plus brève que mes deux collègues. Est-ce que c'est parce que j'aurais suivi la consigne? Je vais vous parler, oui, tantôt des liens entre la culture matérielle et le discours social, mais j'avais envie de commencer par un autre biais. En fait, je me suis reportée à l'époque de la parution de 1889, moment où j'étais moi-même jeune étudiante, mais plus jeune même qu'Olivier. Et qu'est-ce que ça a fait que la parution de cet ouvrage? Comment ça a peut-être reconformé notre rapport, bien sûr, à la théorie et au texte? Et il me semble qu'au moment où 1889 est arrivé dans le domaine des études littéraires, le bouquin offrait une espèce de double réponse à des positions théoriques au sein desquelles plusieurs se sentaient désormais plus ou moins confortables. D'une part, et c'est évident, il permettait une sortie hors du cadre immanentiste, si l'on n'en sort jamais, bien sûr, c'est une tentation permanente des études littéraires. Alors, ce cadre avait connu, évidemment, des beaux jours avec le structuralisme, mais continuait sous diverses formes, que ce soit celle de l'analyse thématique, de la psychanalyse, de la rhétorique, de la génétique, et continuait donc à imprégner les lectures. 1889 a donc eu un effet de désacralisation, de recontextualisation radicale, de vaste mise à plat, comme on l'a souvent dit, des hiérarchies discursives et culturelles. Et il présentait, vous le savez, les divers acteurs du discours en interaction généralisée sur un vaste plan horizontal, si l'on veut. Les textes littéraires, quant à eux, se voyaient donc réinscrits dans une dialectique, dans un espace relationnel qui leur conférait leur sens. Ils étaient vus dorénavant comme une province particulière du discours, province sans doute dotée d'une certaine autonomie, mais pas d'une pleine souveraineté. En ce sens, 1889 ne se présente pas comme une théorie de la production ou des effets littéraires, mais comme une sorte d'étape préalable à toute analyse, suggérant que cette analyse doit se mener dans un jeu de comparaison avec le déjà-là. Excusez-moi. Deuxième position théorique qui était devenue plus ou moins inconfortable, et c'était au fond à l'époque la mienne, à l'autre extrême, du spectre analytique, 1889 offrait un instrument pour ceux qui, dans la foulée des cultural studies, à l'époque déjà très à la mode, s'intéressaient aux pratiques culturelles. Pour mémoire de maîtrise, un texte sur les odeurs chez Zola, où il y avait en fait une absence de théorie quant à l'appréhension de cette pratique culturelle, où la seule théorie possible en était une d'analyse rhétorique. Donc, il y avait un hiatus considérable, si je me reporte à l'époque, entre la pratique culturelle et les usages culturels que j'essayais d'analyser, et les instruments d'analyse qui étaient, eux, liés à la rhétorique de la description. Donc, une espèce de no man's land entre les deux. Et de manière générale, à l'époque et encore aujourd'hui, pourrait-on dire, les cultural studies analysent les pratiques culturelles en les plaçant dans le vaste contexte flou des idéologies, des systèmes symboliques, des hiérarchies culturelles. Et les représentations de ces pratiques, qu'il s'agisse des représentations en images, des discours, des textes littéraires, sont instrumentalisées. Elles apparaissent comme des documents utiles, mais simplement pour retourner à une source qui, elle, serait non linguistique ou représentationnelle, non représentationnelle, qui serait la pratique elle-même. Et donc, la visée épistémologique des cultural studies, c'est l'analyse des pratiques concrètes. Avec 1889, Angenot proposait un instrument, le discours social, par lequel se trouve médiatisé le rapport entre les idéologies et les pratiques culturelles. Et dès lors, le centre de gravité de l'analyse pouvait se déplacer vers les représentations langagières, vers le discours lui-même. Il y a donc, me semble-t-il, dans 1889, un véritable geste fondateur au point de vue théorique qui aurait déployé les positions, résolu des oppositions que moi-même je ressentais et permis d'inscrire de nouveaux objets dans le cadre d'analyse. Et ce caractère novateur explique le fait que l'œuvre ait été reçue au sens fort, à tout le moins au Québec, reçue, mise à l'œuvre et à l'épreuve. Tout le monde s'est mis à se réclamer de l'analyse du discours. Et qu'avons-nous fait avec ça? Parce qu'il me semble qu'il y a aussi un fait d'époque où dans la décennie qui a suivi, bien sûr, là ici, il y a un effet de réseau. Nous étions dans un réseau où tout le monde faisait de l'analyse du discours. Mais d'un réseau proprement littéraire, 1889 ne se présentait pas comme une théorie littéraire, mais comme une théorie du discours. Et pourtant, c'est dans le domaine des études littéraires que le texte a été vraiment reçu. Et puisque la préoccupation de la plupart d'entre nous était la littérature, nous avons fait de l'analyse du discours cette étape première qui nous permettait de comprendre la façon dont les représentations s'exprimaient différentiellement dans les textes littéraires. Alors, il s'agissait de penser la langue spécifique de la littérature par rapport à d'autres secteurs du discours. Et j'y reviendrai tantôt, mais en un sens, on pouvait dire déjà qu'il s'agissait d'analyser le discours pour mieux comprendre comment on pourrait essayer d'en sortir ou essayer d'arriver à ses marges ou à ses représentations, ses configurations plus rares. Alors, ça met évidemment en évidence un point de tension qui me semble encore exister entre la théorie du discours social et certaines conceptions sous-jacentes au domaine littéraire relatives à la place du littéraire face à l'hégémonie. Et c'est la question d'hégémonie qui va m'occuper maintenant. Alors, l'un des postulats, comme Olivier l'a mentionné, je vois qu'il y a plusieurs définitions de l'hégémonie, je n'ai pas la même que toi. Alors, oui, c'est ça. L'un des postulats de la théorie du discours social concerne la notion d'hégémonie. Qu'Angenot définit, à la page 21, comme un système régulateur qui prédétermine la production de formes discursives concrètes. 1889 veut montrer que le discours social, dans sa variété de surface, n'est en fait que l'articulation variée selon les contextes d'une doxa déterminée par l'hégémonie. Alors, envisagée dans toute sa force et dans toute sa centralité, cette notion d'hégémonie suppose qu'il n'existe pas une telle chose qu'un énoncé véritablement contre-discursif, puisque sa possibilité même serait prévue et programmée par l'hégémonie. Par exemple, dans le domaine littéraire, et je ne prends pas des exemples de 1889 à proprement parler, mais j'aurais pu, mais dans le domaine littéraire relativement autonomisé de l'époque, les Chants de Maldoror en 68 ou Une saison en enfer en 73 sont des énoncés certes marginaux, mais dont l'hégémonie, si elle est prise au sens fort que lui donne Angenot, est réputée déterminer l'actualisation. Alors la question dans ce contexte, c'est évidemment de savoir comment le discours évolue, comment naît le nouveau, comment l'indicible devient dicible. Comment allons-nous passer d'un contexte où les Chants de Maldoror sont indicibles à un contexte où finalement ça se dit? Et l'hégémonie reste à cet égard-là un concept qui me semble abstrait, massif, et seul un regard différentiel sur le fonctionnement des énoncés les plus marginaux peut nous donner un aperçu des mécanismes du changement. Et donc c'est en regardant non pas l'hégémonie dans son ensemble, mais les pratiques concrètes très spécifiques et probablement les plus différenciées qu'on peut comprendre comment tout cela fonctionne. Et c'est ce à quoi plusieurs se sont attachés. Et voilà pourquoi nous avons examiné le discours social, mais pour essayer d'en sortir, pour valoriser ses marges, ses anomalies, ses frontières. Et paradoxalement, alors que la théorie du discours social a commencé avec une mise à plat de tout l'ensemble discursif d'une société, y compris de la littérature qui était traditionnellement mise à part sur un piédestal, bien on en est maintenant à resacraliser ou à refétichiser, en un sens, la littérature, puisqu'on lui conférerait ainsi, une certaine littérature, le pouvoir de faire bouger l'hégémonie. Et je vais faire un pas de plus, je vais me commettre ici dans des déclarations fort naïves, sans doute, mais vous m'en excuserez. Et c'est un tâtonnement qui m'est suscité par le programme qui nous a été proposé ce soir. Alors, je vais faire un pas de plus concernant mes recherches et les différents objets que j'ai été amenée à analyser dans les dernières années. Alors, ces recherches des dernières années, ça a été, je vous l'avais dit d'abord, sur les odeurs, mais je les mettrai à part, étant donné ce que j'en ai fait, mais j'aimerais y revenir, sur l'aliment et maintenant sur les objets, particulièrement les objets de luxe. Ce sont des domaines en rapport avec le concret, évidemment, avec l'expérience sensible et ses mises en représentation. Bon, historiquement, les mises en discours de ces domaines du concret ont été problématiques et certainement pas situées au centre de l'hégémonie. Parler des odeurs, des sens, du toucher, du goût, c'était se situer dans des discours non légitimes, marginaux, qui avait donc ce statut potentiellement de faire peut-être bouger l'hégémonie. Les sphères de l'expérience humaine, et en particulier celles qui sont fondées sur l'expérience sensible, en plus, me semble-t-il, et c'est là que je me commets, échappent en partie au discours où se situe justement à cette frontière poreuse et mobile où les sensations se transforment en représentations. Fatalement, en chaque sujet, il y a un moment où la sensation se transforme en représentation. C'est sûr que ce qui tombe en dehors de l'ordre du langage, c'est un reste qui ne peut pas faire l'objet d'une théorie de la représentation. J'en suis d'accord et je n'ai pas l'intention de produire ici une théorie de l'indicible ou de l'ineffable. Mais l'expérience sensible s'inscrit néanmoins à un niveau infra- ou proto-linguistique lié entre autres au corps et à la mémoire. Il me semble que le texte littéraire, parce qu'il est le lieu du propos oblique et décalé, qu'il est le lieu du propos allusif, peut permettre qu'advienne à la représentation ce dont on ne peut pas parler directement, justement ce discours des sens. Parce que le langage, et particulièrement le langage littéraire, mais tout langage, me semble-t-il, et là c'est une conception qui me semble n'est pas la tienne, le langage est toujours susceptible de porter plus que ce que l'on dit explicitement. Il y a toujours dans les textes un surplus, une sorte de méta-connotation. On peut toujours, bien sûr, expliquer cette méta-connotation, mais l'expliquer va amener probablement à la production de d'autres méta-connotations. Et alors les textes qui jouent sciemment sur ce registre, ce surplus de sens, agissent alors comme relais vers le disciple et peut-être comme énoncés qui viennent faire bouger l'hégémonie. En ce qui concerne le discours des sens ou des objets, Zola sur les odeurs, Mallarmé qui décrit des objets, Proust qui parle du sens synesthésique, me semble-t-il, font passer dans l'ordre des représentations, des perceptions, mais les font passer d'une manière tout à fait neuve par le biais du propos oblique, décalé, méta-connotatif, allusif. Bon. Mon objet, alors moi, personnellement, au bout de ce bilan-là, ça serait d'examiner ce qui se dit ainsi indirectement, ce que dit le texte, excusez le cliché, entre les lignes, hein, dans ce lieu où s'effectue, me semble-t-il, peut-être ce travail propre de la littérature. J'ai probablement une conception finalement symboliste. Et bien sûr, on pourra me poser la question, n'es-tu pas en proie à une espèce d'effet de mythification où tu crois le discours que les symbolistes te proposent? Je ne saurais que répondre. Et on peut s'interroger sur la possibilité que je puisse mener cette analyse de ce que dit le texte indirectement. Mais en tout cas, de toute manière, cette vision du langage et cette vision peut-être de ce que serait le lieu propre de la littérature nous questionne, me semble-t-il, sur la notion d'hégémonie, sur la possibilité d'une infradiscursivité, d'une paradiscursivité, d'une contre-discursivité de certains écrits et sur les modalités selon lesquelles tout ce qui serait infra, para ou contre-discursif peut passer à l'hégémonie. Et si j'avais une question à poser à Marc Angenot, ben ce serait celle-là, celle du maintien. La maintient-il, cette notion d'hégémonie? La maintient-il d'une manière aussi centrale qu'il l'avait fait avec 1889? Comment peut-elle évoluer, peut-être à partir aussi de constats que l'on peut faire aujourd'hui, où le discours contemporain nous met face à un éclatement, sans doute, de cette notion-là. On a l'impression qu'il y a plusieurs systèmes concurrents de production du discours, peut-être plusieurs hégémonies qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, et peut-être que cette constatation-là même peut nous faire revenir sur l'hégémonie même de 1889. Alors, je vais m'arrêter ici.
Merci Geneviève Sicotte pour cette communication qui met bien le doigt sur la position paradoxale qu'entend occuper le littéraire qui utilise la théorie du discours social tout en voulant continuer à montrer que son objet d'analyse, l'œuvre littéraire, est capable de faire bouger l'hégémonie. Pour terminer ces présentations, je vais maintenant donner la parole à Michel Piersens qui va nous parler de la science.
De la science. Bon, ou en tout cas de certains aspects de la science, ou de certains aspects de la science chez Marc Angenot, ou de la science de Marc Angenot. Donc, je vais essayer de faire un tour et peut-être d'aboutir à des questions auxquelles il a dit qu'il ne répondrait pas, mais enfin, la conversation pourrait se poursuivre d'une autre façon. Alors, je vais commencer moi aussi un petit peu par un récapitulatif de mes lectures de Marc Angenot. Lire 1889, naturellement, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une soirée, hein, ça va de soi. Et c'est quelque chose à quoi on revient. Et j'ai eu l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Et c'est les façons dont j'ai relu Marc Angenot ont été en effet différentes. Et ces différences ont été causées, entre autres, par la lecture même de cet ouvrage. Alors, je dirais d'abord, j'avouerai très humblement que j'ai commencé ma lecture de 1889 de façon absolument opportuniste, comme beaucoup d'autres, puisque cet ouvrage paraissait avec pour résultat de condenser de manière miraculeuse une quantité d'informations formidables que, avant l'ère informatique, Internet, Gallica, etc., on ne pouvait obtenir que si on passait comme lui des mois ou des années à la Bibliothèque nationale. Alors ça, c'était tout à fait commode parce que on pouvait trouver sous un format compilé toute une série de références formidablement utilisables. On pouvait faire comme si on avait lu. Il suffisait de se référer à ce qu'en disait Marc Angenot. Bon, c'était tout à fait intéressant. Au-delà de ça, bien sûr, deuxième couche, si j'ose dire, dans ces lectures, il y a tout ce qui concerne évidemment les idées. Pas seulement leur formation, mais ce qui permet d'une certaine manière de les emballer, ces informations, ou de les déballer, de les triturer, de les manipuler d'une façon qui était toujours extraordinairement séduisante. Alors c'était très séduisant à l'époque en particulier parce qu'il y avait là aussi une synthèse des discours d'époque. On sait bien que Marc passe allègrement, avec une jouissance évidente, du vocabulaire marxiste au vocabulaire psychanalytique, de la psychanalyse à la sémiotique, à la théorie du discours, etc. Et il y avait donc là quelque chose qui confirmait d'une certaine manière l'importance, la densité de ce qui était en train de se penser dans ce qu'on a appelé ensuite la « French Theory ». À cette époque, je n'avais pas noté qu'il y manquait des choses. Parce que dans cette amalgame, compilation, je le dis dans un sens très positif, compilation d'idées d'époque et de théories d'époque, il y a des tas de choses qui n'apparaissent pas. Alors, on pourrait noter qu'il y a très peu de Foucault, il n'y a pas de Lacan, il y a du Guattari, mais pas tellement de Deleuze, malgré la reterritorialisation. Il y a du Gramsci, là, on parlait d'hégémonie, bien entendu, c'est sans doute très, très important. Et bien sûr, il n'y a pas de Derrida. En revanche, il y a beaucoup d'Allemands, et ça, c'était un grand plaisir pour une génération comme la mienne qui avait passé beaucoup de temps à essayer de lire Hegel dans le texte, puis Heidegger, puis un certain nombre d'autres gens comme ça. On retrouvait des fragments qui étaient tout à coup lumineux. Donc, c'était tout à fait intéressant. Alors, au-delà de ça, bien sûr, il y a le moment aussi de l'insatisfaction. Ça va de soi. Puisque d'un côté, les références sont considérables, elles sont là, l'information y est, mais elle y est de manière extrêmement partielle, fragmentaire. On a une bribe de citations, ici ou là, des références qui ne sont pas toujours très complètes, je dois le dire. Si, elles sont très complètes, mais on en voudrait plus. On en voudrait plus. Vous voyez, il a réagi quand même. Pour ce qui est de la théorie également, on en voudrait un peu plus. Et on a parfois, on a assez rapidement le sentiment que lorsqu'il est question du discours, au fond, c'est le discours au sens pratiquement latin du terme. C'est-à-dire que ça court ici et là. Enfin, l'analyse court de tous côtés, au fond, et difficile à saisir. Dernière étape de lecture, c'est celle à laquelle j'en suis, peut-être que je passerai à une autre, c'est l'étape qui fait de 1889 une lecture, je dirais, lyrique, hein, où je suis de plus en plus sensible, effectivement, au Marc Angenot, poète, au fond. Et ce qui me frappe, ça le vexera sans doute, mais ce qui me frappe de plus en plus, c'est la parenté qu'il existe entre sa façon d'écrire dans 1889, mais pas seulement 1889, sa façon d'écrire et, au fond, les grands discours romantiques ou néo-romantiques du 19e siècle. Il y a chez lui du Chateaubriand. Lorsqu'il s'attaque à ces immensités documentaires, c'est un peu Chateaubriand avec les forêts du Nouveau Monde, le Niagara, c'est un peu ça. Il y a également chez lui du Michelet, l'ambition de Michelet, on la retrouve chez Marc Angenot, refaire une sorte d'histoire universelle à partir de ce qui travaille de la manière la plus efficace, les désirs, les fantasmes, l'imaginaire, etc. Michelet fait ça, l'histoire de la Révolution écrite par Michelet. C'est un peu l'histoire de 1889 écrite par Marc Angenot. Il y a, là je vais un tout petit peu plus loin, ça lui plaira moi, il y a aussi du kiné. Non, tu es d'accord? Oui. Bon, alors, il est d'accord, il y a du kiné chez lui, c'est-à-dire cette façon, là aussi, de reconstituer d'immenses épopées humaines, où s'affrontent le bien, le mal, c'est-à-dire il y a un sens du mal très fort chez Marc Angenot, presque tout est mal d'ailleurs, presque tout est du côté du mal. J'en redirai quelque chose tout à l'heure. Il y a donc là une espèce d'emportement, d'emballement, de course stylistique qui est fondée beaucoup aussi sur l'un de ses traits d'époque qui était le goût du néologisme, le goût de la fabrication de termes qui étaient un peu allemands, un peu grecs, un peu latins. Alors ça fait de formidables enfilements de termes. Bien, pour parodier le discours d'époque, je dirais qu'il y a chez lui une hubris socio-lexicale, quelque chose comme ça, ou sémio-lexicale, quelque chose de ce genre. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas que ça, et je dois parler de la science. Alors je vais en dire deux mots. De la science. Et en effet, la question est tout à fait cruciale. 1889, c'est un moment tournant, pas l'année simplement, mais cette période-là est un moment tournant parce que, de fait, la science telle qu'elle est décrite dans 1889, avec les problèmes, toute cette axiologie qui est décrite, elle est en train de se défaire, elle est en train de se réorganiser selon d'autres critères. C'est-à-dire que ce que nous appelons la science contemporaine, ça n'est pas la science moderne du 19e siècle. Et c'est à peu près à cette époque-là que c'est en train de basculer. Tous les fondements vont être remises en question. En particulier, là, je ne vais pas y insister, mais en particulier dans la physique, bien sûr, avec toute une nouvelle façon de décrire l'atome, les forces. C'est la période où on formule les nouvelles équations de l'électromagnétisme qui changent complètement la conception de la matière et par conséquent aussi des dispositifs expérimentaux qui peuvent en rendre compte. Donc c'est la science du 19e siècle, celle qui est fondée sur le fait, la loi, l'expérience, le dispositif objectif, la neutralité, tout ceci est en train de se défaire. Et bien sûr, ça va aboutir à la refondation dans les termes de Poincaré, par exemple. Ça va être tout autre chose. Alors, cela dit, la description qui est donnée ici du discours sur la science, Marc Angenot est prudent en disant qu'il parle du métadiscours, il ne parle pas de la science elle-même. Ce qui est dit sur la science est parfaitement exact et parfaitement pertinent. Mais bien entendu, relu aujourd'hui, on voudrait en savoir beaucoup plus. Et au-delà de ce que l'on dit de la science en 1889, la question se pose de ce qu'elle dit d'elle-même, ce qu'elle peut dire d'elle-même. Et en parlant d'elle-même, où peut-elle aller? Comment peut-elle inventer? Et là, on n'est plus dans le domaine de la lexicologie ou de l'analyse du discours, on est dans le domaine de l'épistémologie, qui est aussi quelque chose qui est en train de se former de manière nouvelle à cette époque-là. Ce qui est intéressant aussi, et qui est peu abordé dans 1889, c'est la question de ce que la science dit des autres discours. Dit des autres discours. Parce que la science de cette époque, elle veut, elle a elle aussi sa prétention hégémonique, ce qui est souligné, mais comment entre-t-elle dans le discours des autres? Comment fait-elle pour, à travers sa critique des discours, des autres discours, comment fait-elle pour influencer la société et la transformer? Parce que, là aussi, c'est souligné, surtout sur le plan de la politique, surtout sur le plan des théoriciens de la société, mais c'était vrai peut-être encore plus chez les savants de cette époque, il y avait une volonté de transformer la société, mais qui était fondée sur ce que la science pouvait savoir d'elle-même, ce qui l'a amené à s'interroger de manière extrêmement puissante. Et ce qui est donc devenu l'un des moteurs majeurs de la science à cette époque, c'est ce qui n'était alors, pendant tout le 19e ou 18e siècle même déjà, qu'une sorte de romantisme de l'inconnu, ce qu'on ne savait pas, c'est devenu là le moteur, l'incitation absolue à produire quelque chose, produire de la connaissance. Donc ce qui, pour moi, me paraît le plus intéressant dans cette époque, c'est la question de la novation en général. Là, je reprends les termes de Judith Schlanger. Comment produit-on du nouveau? Là, je rejoins jusqu'à un certain point ce qui était dit tout à l'heure par Geneviève. Alors, peut-on apprendre quelque chose de la science en étudiant ce que l'on dit sur elle? La science en 1889, je ne le crois pas. Je pense que non. Ça me paraît tout à fait impossible. En revanche, il y a des choses que l'on peut étudier et que Marc étudie dans une certaine mesure, sans aller toujours très très loin, parce que ce n'est pas toujours les objets qui l'intéressent le plus. Dans ce que la science dit d'elle-même, il y a des choses que l'on pourrait déployer et qui nous amènent à comprendre, qui pourrait nous amener à comprendre mieux pourquoi il y a ce discours sur la science. Parce qu'il ne faut pas simplement constater qu'il est là, le discours sur la science. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est si important. Alors que la science n'était pas en 1889 ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une immense machine, un immense appareil à la fois étatique, capitalistique, académique, etc. C'était quelque chose de relativement restreint. Quelques laboratoires, c'est pas, quelques institutions. Pas grand-chose, finalement, la science en 1889. Alors, pourquoi était-elle si importante? Alors, certains des points sont soulevés dans 1889. Il y a, par exemple, tout ce qui a été la construction de la figure du savant. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été formidablement mobilisé par les différents acteurs sociaux, chacun avec leurs objectifs. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Surtout la construction du savant officiel, bien entendu, comme on le disait à l'époque. Mais je vais pas y insister. Cette figure qui apparaît, qui est omniprésente, elle risque cependant de masquer autre chose, c'est-à-dire toutes les dissidences. Bon, il en est un petit peu question dans 1889, mais pas beaucoup. Or, c'est l'un des points importants dans l'évolution de la science à partir de cette période, qui était déjà, c'était déjà présent, mais c'est systématisé à partir de ce moment-là. La science se conçoit elle-même comme le lieu du dissensus. Le consensus, c'est ce que consensus scientifique, c'est ce qui deviendra la science dite ordinaire par Kuhn au XXe siècle. Mais personne ne se satisfait de la science ordinaire. On veut tous de la science extraordinaire. Et pour ceci, la dissidence est fondamentale. Alors, c'est à relier à ce travail qui est fait par les scientifiques sur la société pour obtenir les moyens de réaliser leur programme. Donc, les académies, l'Académie des sciences, qui est en déclin à ce moment-là, se trouve débordée par l'apparition de nouvelles formes d'organisation des savants. Il y a des laboratoires privés qui apparaissent en concurrence avec les laboratoires étatiques. Bon, enfin, je ne vais pas insister là-dessus. L'un des points les mieux soulevés, les mieux soulignés par 1889, c'est tout ce qui relève de la communication scientifique, comme de la communication en général. Enfin, ce qu'on a n'appelait pas la communication, la publicistique, comme le dit Marc dans ce livre. Tout ce qui est édition, et ainsi de suite. Alors ça, c'est passionnant à étudier, c'est relativement peu étudié ici pour ce qui concerne la science. On voit apparaître de très importantes collections scientifiques, par exemple. Qu'est-ce qui fait que des éditeurs pouvaient investir dans des ouvrages comme personne n'en publie aujourd'hui, n'est-ce pas ? L'ampleur des ouvrages, l'importance, le volume, etc., c'est considérable. Et il y a une concurrence entre des maisons d'édition qui mettent sur le marché quelque chose. Donc il y a un marché de la publication scientifique qui mériterait d'être étudié plus en détail à partir de ce qu'il observe. Alors je ne vais pas énumérer la question des périodiques, la question des cours et des conférences, et ainsi de suite. Un point quand même que je veux souligner, parce qu'il est absent, c'est celui qui touche les images de la science. Non pas l'image au sens verbal du terme, mais l'image au sens tout à fait concret du terme, d'illustration. C'est très peu présent dans 1889. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est un apport de notre période, de plus récente. Aujourd'hui, nous voyons bien que si l'on examine la question du savant, par exemple, il faut voir ce qu'en ont été les images et les illustrations. Bref, je vais terminer. Je vais terminer en soulignant quelque chose qui, au fond, va peut-être synthétiser ma façon de lire 1889 en lui mettant une étiquette que Marc appréciera ou n'appréciera pas. Mais il me semble qu'au fond, il est représentatif, le seul représentant, hein, ce qui fait de lui un homme du 19e siècle, parce que chacun était l'homme, le seul homme de sa discipline, au fond, réellement. Auguste Comte est le seul comtiste, d'une certaine manière. Bien. Donc, l'étiquette que je mettrais sur la démarche de Marc-Angelo, c'est celle d'un positivisme crépusculaire. Positivisme, en deux mots, positivisme, parce qu'il croit manifestement, hein, à la démarche qui permet de collecter des faits, ce qu'il a fait en abondance, et ces faits, c'est pas, on peut les rassembler, les rendre intelligibles à partir de lois. Il y a des lois. C'est pas, bon, qu'est-ce que c'est d'autre sinon du positivisme ? Crépusculaire, parce que je crois que dans discours, ce qui l'intéresse le plus, c'est le dis, c'est tout ce qui est extraordinairement présent dans son ouvrage, tout le vocabulaire de la décadence, du délitement, de ce qui se défait, de la déconstruction, de la débandade, enfin bref, etc. J'espère qu'un jour, quelqu'un fera une analyse lexicologique de cet ouvrage. Ça nous amène donc à voir 1889 comme une œuvre qui ne représente pas 1889, finalement, mais qui représente une vision, qui est une vision passionnante par ailleurs, et qu'on peut continuer à admirer.
Merci Michel Pirsens pour cet ensemble de remarques très informées et très perspicaces sur la science à la fin du 19e siècle et sur sa présence dans l'ouvrage de Marc Angenot, d'une part, et aussi d'autre part, pour un dévoilement que je trouve tout à fait fascinant, c'est-à-dire que, bon, tout le monde sait que 1889 est habité par le 19e siècle, mais il me semble que vous avez montré une manière avec laquelle il est habité par de grandes figures du 19e siècle qui est tout à fait éclairante et que je n'avais jamais entendue avant ce soir. Et c'était tout à fait fascinant. Je pense qu'on a bien vu avec nos quatre intervenants que 1889, comme je l'ai annoncé au début de la soirée, a alimenté une série de réflexions très différentes les unes des autres, qu'elle a suscité des questions dans une multitude de champs d'intérêt et de recherche. Et je pense qu'on peut maintenant continuer à voir la diversité de ces questionnements-là en laissant la parole au public. Et je vous rappelle de toujours prendre le temps de parler dans le micro pour que votre intervention soit enregistrée et qu'on puisse l'entendre lorsque l'émission sera diffusée sur Radio Spirale. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter des commentaires à ce qui s'est dit ce soir? Pierre Popovic.
Bon, mais il en faut un pour commencer, donc voilà. D'abord, merci aux quatre panélistes pour cette empathie rigoureuse avec laquelle vous avez parlé du travail de Marc, et je crois que c'était vraiment ça qu'on espérait de cette rencontre d'aujourd'hui. Moi, je voudrais commencer aussi par dire une chose qui m'a frappé récemment, c'est que Ce qu'on fait là était, quand je suis venu au Québec, tout à fait impensable. Les vieux professeurs que je rencontrais me disaient « Ici, les revues durent 3 ans, les livres comptent 6 mois. Une intervention, disons, est très éphémère. Il n'y a pas de mémoire de la théorie, il n'y a pas de mémoire de l'essayistique. » Et là, j'ai constaté récemment que la revue Spiral a 30 ans, que Cahier de théâtre Jeux ont fait leur 100e anniversaire, je crois, leur 100e numéro. je me suis laissé emballer par le 19e, et puis on parle aujourd'hui d'un livre qui a compté beaucoup et qui compte encore beaucoup pour nous. Alors moi, je voudrais juste dire 2-3 choses sur ce que j'ai entendu là, et puis dire aussi un certain sentiment par rapport au travail de Marc. Je dirais que je suis comme Geneviève. Moi, j'ai vu le livre arriver alors que j'étais en train de construire des choses. Et pour moi, 1889 et le travail qu'a suivi, le cru le faisant des, tout ça, ça a vraiment été une bouée de sauvetage. Dans la mesure où ça m'amenait à décoisonner quelque chose, mais un autre décoisonnement de ceux dont a parlé Paul Breton, c'était le décoisonnement des discours politiques. C'est-à-dire que moi, j'avais été élevé par mes anciens professeurs dans une espèce de confort où il y avait l'idéologie dominante, ça c'était les mauvais. Et puis, il y avait, disons, l'avenir du prolétariat, c'était les bons. Et nous qui étions universitaires, nous étions avec les bons, bien entendu, alors qu'on ne voyait jamais un prolétaire de notre vie à peu de choses près. Et donc là, soudain, dans 1889, il y a ça avant tout pour moi, cette circulation des représentations qui fait que on s'aperçoit finalement que les clichés, les stéréotypes, les évidences, les idéogèmes et tout ça se retrouvent aussi bien chez les meilleurs penseurs et les plus étonnants que parfois ceux qui sont en plein centre de la sphère publique. Alors là-dessus, 2 suggestions, pour ne parler pas trop longtemps non plus. Il me semble qu'une chose qui serait amusante à faire aujourd'hui, ce serait une histoire de la théorie du discours social qui resituerait le travail de Marc et puis de ceux qui sont inspirés de lui aussi, parce que nous sommes quand même nombreux, et qui repartirait sûrement de l'idée suivante, qui reviendrait à retrouver en tout cas cette idée, c'est que au départ, les premiers analystes du discours social, ce sont des écrivains. C'est-à-dire que l'ancêtre de 1889, pour moi, c'est le chapitre 1817 des Misérables de Victor Hugo, où Hugo synthétise là toute une année, et c'est une écoute de la rumeur. Alors, il n'y a pas le côté scientifique et analyse du discours qu'il y a chez Marc, mais il y avait ça. Deuxième chose que je dirais, puis je m'arrêterai, dès le Siad Est, il y a eu cette tentative d'unir la sociocritique et l'analyse du discours social. Moi, j'ai fait une thèse dont le sous-titre est « Poésie et discours social », etc., etc. Donc j'étais fort sensible à cela. Il y avait un couple infernal dans le Siad Est qui existe toujours, celui de Régine Robin et de Marc Anchenot. Qui ont dû avoir, j'imagine, un nombre sidérant de discussions sur cet arrimage. Mais il me semble que dans tout ce qu'on fait, on finit par à un moment donné se dire « Ne faudrait-il pas arrêter devant un texte de se demander ce qui le précède ? Ne pourrait-on pas directement penser à tout texte ou tout discours comme action ?» Et à partir de ce moment-là, c'est un peu le travail d'Éric Méchouan sur l'histoire qui me fait penser à ça. Éric ayant une phrase très belle disant « Penser ce qui vient avant un énoncé, finalement, c'est une mauvaise habitude ». Et il y aura effectivement une autre façon de saisir le discours social, de retrouver peut-être effectivement une sorte de redépart à partir d'une lecture immédiate d'un texte, quitte alors à rejoindre des phénomènes transdiscursifs beaucoup plus larges.
Merci Pierre Popovic. Est-ce qu'on a des réactions ou d'autres commentaires, des questions peut-être pour l'un de nos intervenants? Enfin, moi j'aurais une question. C'est une question pour Paul Bleton. Tu nous avais parlé au départ d'un troisième moment dans ta réflexion où tu avais évoqué le théorie du discours social et le caractère impitoyable du 10 minutes t'a empêché de nous dire de quoi il s'agissait. Alors, en quelques minutes, quelques phrases, pourrais-tu nous dire de quoi il s'agissait en fin de compte? J'étais curieux.
Bon, il s'est déjà fait traiter d'Edgar Quinet, de Chateaubriand. Alors je peux y aller, là. J'étais préoccupé, à vrai dire, par ce qui me semble être peut-être le concept le plus novateur de 1889, qui est l'idée de romanesque générale. En gros, bon, puisque vous avez lu le livre, il y aurait, en 1889, une sorte de mode cognitif généralisé, dominant, d'appréhension du monde, de compréhension de ce qui arrive autour de nous. Et ce mode d'appréhension serait le roman. Donc un genre qui lui-même n'est pas assujetti à des règles extrêmement fermes, là, c'est pas la tragédie racinienne, mais qu'on reconnaît comme quelque chose d'importance. Il a eu le temps de se sédimenter là, depuis Balzac et depuis le roman feuilleton. On a à ce moment-là une assez bonne idée de ce que peut être un roman. Une assez bonne idée qui va se reproduire au moment de l'invention du cinéma, puisque l'enregistrement, disons, si on situe la modernité du XXe siècle en 1895, l'appareil nouveau enregistre le mouvement. La chose importante à filmer, c'est un cheval qui galope. Et c'est dans un deuxième temps que le roman advient au cinéma, qu'on se met à faire des scénarios, qu'on se met à faire rentrer quelque chose qui était nouveau dans ce qui est ce que tout le monde appelle l'hégémonie. Et c'est une idée que je trouve stimulante, intéressante, et peut-être une de celles qui ont été les moins exploitées par ceux qui ont travaillé à partir de 1889, même si ça n'a pas été négligé, si ça n'a pas été oublié. Or, pour moi, ce qu'il y avait de problématique, c'est des énoncés du même niveau de généralité qui vont, par exemple, se retrouver chez Régis Debray, sorte d'étudiant ou de disciple de Michel Serres, qui dit « l'appareil lui-même génère quelque chose ». Alors, c'est dans l'univers particulier de la communication, là, c'est les préoccupations de Régis Debray. L'appareil lui-même, c'est lui qui fabrique les grandes scansions. Il est plus important de savoir comment telle bibite marche que de se préoccuper des discours de légitimation qui vont avec. Ils ne sont que seconds. Et évidemment, vous voyez qu'il peut y avoir comme un conflit entre les deux perceptions, et c'est un conflit qui est sans doute pas facile à résoudre, à moins de se dire, de renvoyer les théoriciens dos à dos en disant « ni l'un ni l'autre n'est vraiment important ». Je pense que et l'un et l'autre sont stimulants, provoquent un questionnement. Et j'en ai un troisième qui est lié à cette période 1889, ou plus exactement les dernières années du 19e siècle. Cette fois-ci, ça renvoie à un autre qui n'est pas un théoricien, là, c'est un historien du livre, Jean-Yves Mollier, qui lui prétend, et je pense à tout aussi juste titre que Angenot et Debray, qu'il y a eu une grande révolution culturelle inaperçu dans la France de cette période-là, et que cette grande révolution culturelle, c'est dans l'histoire de la lecture qu'on la trouve. Les grandes dates, bon, vous les connaissez, là, je vais juste en rappeler quelques, je ne veux pas faire une argumentation là-dessus. La première, c'est d'abord que les lois de Jules Ferry qui rendent l'école non seulement obligatoire, mais en plus gratuite, sont votées. Il y avait une alphabétisation qui s'était faite, ce n'était pas dans un vide absolu, mais à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on va avoir de nombreux lecteurs parce qu'ils ont la capacité de lire des mots imprimés sur une page. Et la deuxième grande partie de cette révolution, elle s'incarne, selon Mollier, dans trois objets culturels. C'est un marxiste, et ce qui l'intéresse, c'est les quantités des choses. Donc, dans les années qui préoccupaient Marx, jusqu'à 1914, il y a une croissance exponentielle de trois de ces objets culturels, le journal, le manuel scolaire et le roman populaire. Les trois fabriquent du commun, fabriquent du vivre ensemble. Et il se trouve que c'est, disons, la deuxième révolution industrielle, que les Français se retrouvent, plutôt, les Français et les Belges, se retrouvent plutôt dans des villes que dans des campagnes, ce qui avait été le cas jusque-là, et que les allusions en clin d'œil qu'on pouvait faire quand on vivait dans une petite collectivité ne sont plus de mise. Donc il faut pouvoir, autour du café du petit matin, trouver un sujet de discussion commun. Et ça va être le dernier match du Canadien. Bon, à l'époque, c'était autre chose, là, mais c'était ça l'idée, fabriquer du lien. Donc, importance du journal, importance du manuel scolaire pour apprendre aux gens à lire et à avoir une sorte de passé collectif, et littérature populaire, complètement différente de ce qu'était la littérature orale, le conte, même s'il y a du recyclage, même s'il y a de la récupération. Mais aussi assez différente et du roman réaliste et du roman distingué, du roman plus bourgeois de la fin du 19e. Et quelque chose qui, là aussi, fait du commun. Et c'est peut-être là où l'idée de Marc s'incarne le plus carrément, avec le plus de justesse, son idée du romanesque général. Je pense que c'est à travers les héritiers du roman feuilleton que la plus grande partie des énoncés de Marc, là, dans 1889, deviennent justes. C'est-à-dire que ce qui serait vrai le serait essentiellement pour les nouveaux scolarisés, pour les nouveaux culturalisés. Je mets des tas de guillemets que vous comprenez, là, autour de ça. Et donc, pour moi, ce n'était même pas une question que je pouvais poser à Marc. C'est une sorte de perplexité. Ces trois lectures que j'ai faites, Debré, Molière et Angenot, et elles ont la même période, les mêmes préoccupations, à la fois la naissance, l'émergence d'une sorte de culture médiatique. Et elles prennent le problème par des biais qui sont peut-être pas incompatibles, mais qui au moins ont de la difficulté à se croiser. Alors ça aurait été comment articuler ce romanesque général avec le reste, qui aurait été mon dernier point.
Merci beaucoup, Paul. Est-ce qu'on a encore des interventions dans la salle? Est-ce que quelqu'un a envie de profiter de l'occasion pour poser des questions ou pour faire des commentaires? Bon. Écoutez, devant votre timidité ou votre réserve... Ah oui, d'accord, pardon, je n'avais pas vu. Olivier Parenteau, oui, d'accord.
Ben, en fait, j'aurais deux autres questions à Marc Angenot, mais vu qu'il s'est retranché dans le silence, je les lui pose, mais peut-être que ça peut faire réagir les gens. Il y a quelque chose qui m'a aussi surpris, c'est qu'en fait, pour préparer cette communication-là, je me suis envoyé toute la section J de 1889 qui est consacrée au champ littéraire, et puis un chapitre aussi sur le roman, qui est aussi jouissif que celui sur la poésie. Et on apprend dans ce chapitre-là quand même que du côté du roman, ça se passe aussi mal que du côté de la poésie, mais il y a un « mais » du côté du roman qui n'est pas du côté de la poésie. C'est-à-dire que le roman, je cite, « fonctionne comme un fournisseur bénévole de prestigieuses narrations anxiogènes répondant aux inquiétudes dominantes. » Ça, c'est la formule générale du roman. Mais il y a quand même quelques exemptés, dont Zola, qui, d'après vous, travaille, malgré le fait qu'il travaille à gonfler en mythe les thèmes les plus tonitruants de la doxa, demeure malgré tout un écrivain qui mérite d'être étudié parce qu'il y a une ampleur mythique et aussi parce qu'il y a une justesse occasionnelle de critique sociale. Et puis je me demandais comment je me demandais comment est-ce que... En fait, je me demandais pourquoi, du côté du roman, il y a possibilité d'exception, alors que du côté de la poésie, il n'y en a pas. Il y a clairement ici quelque chose qui se passe du côté des genres littéraires. Il y a quelque chose que la poésie ne serait pas parvenue à faire, mais que le roman serait parvenu, lui, à mettre en place. Puis j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que c'est. Et puis, j'aimerais revenir sur le commentaire de Pierre Popovic qui parlait de la... De cette idée d'Éric Michoulin qui disait que finalement, ça serait bien de pouvoir lire sans nécessairement penser aux choses qui sont venues avant, faire une espèce de lecture au présent. Et puis, ça m'a fait penser à un extrait que j'avais mis ici, justement, en réserve pour d'éventuelles questions, quelque part dans la conclusion, parce que j'ai aussi lu la conclusion. Quelque part dans la conclusion, vous parlez justement du danger de la réinterprétation du passé par l'avenir. Et puis, vous écrivez à un certain moment, « Tout travail historique qui isole un champ culturel, un genre, un complexe discursif, fût-ce en réinscrivant à l'arrière-plan l'esquisse d'une culture globale, produit un artefact dont l'apparente cohésion résulte d'un aveuglement aux flux interdiscursifs qui circulent et aux règles topographiques qui établissent sous diverses contraintes une coexistence générale descriptible. » Derrière ce texte que je viens de citer, j'ai cru reconnaître la sociocritique, c'est-à-dire qu'on fait exactement ça, on dégage un ensemble explicatif vaste et à partir duquel on essaye, en travaillant sur des textes de manière un petit peu plus minutieuse, de voir justement comment est-ce que ces textes-là parviennent à se déprendre de la doxa ou pas. Et puis, de la manière que c'est présenté dans la conclusion de votre livre, j'ai eu un peu peur, en fait. Il m'a semblé qu'ici, c'était comme une manière de dire que la sociocritique ne fonctionnait pas. Et je me demandais si, justement, comme vous le dites, est-ce que la sociocritique entraîne nécessairement à un anachronisme, c'est-à-dire expliquer un texte du passé par des jugements de contemporains, je veux dire, d'aujourd'hui. Mais aussi, je veux dire, le problème, c'est que vous dites que, fût-ce en réinscrivant à l'arrière-plan l'esquisse d'une culture globale, on ne peut pas parvenir, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas écrire un 1889 à chaque fois qu'on veut faire l'analyse d'un texte. Donc, je me demandais qu'est-ce qu'on faisait avec ça.
Vaste et crucial problème. Je crois que vous, Michel Persens, vous vouliez parler ou c'était seul? Oui, d'accord. Oui.
Je ne vais pas faire de ventriloquisme. Une notion qui est utilisée, d'ailleurs, de temps en temps, dans 1889. Hein, parce qu'il y a des discours ventriloques, comme ça. C'est une notion intéressante. Je pense qu'il aurait pu être développé aussi. Un discours qui parle à la place d'un autre. Un acteur qui parle à la place d'un autre. On croit entendre un discours, mais en réalité, ça vient d'ailleurs, etc. Bon, enfin, c'est intéressant.
Il y a 1167 pages. Toutes les choses qu'on lui suggère ici, il nous donnerait un deuxième volume. Et il nous a menacé des sacs de poubelles qui étaient dans son garage, dont il nous a dit qu'elles étaient jetées.
Tout à fait, on peut espérer un centenaire, que lui-même le soit d'ailleurs.
D'une certaine manière, pour répondre, quand même, je dirais qu'il n'y a pas de problème, puisque la démarche est positiviste.
Pour une démarche positiviste, où que l'on soit situé dans le temps par rapport à l'objet, il n'y a aucune difficulté, puisqu'on rassemble sur cet objet toutes les informations, documents, tous les faits, etc. Et de là, donc, à partir de là, on construit des lois qui, par définition, sont des lois intemporelles. Et bien sûr, pour ceci, il faut se mettre dans la position de ce que, à un certain moment, Marc appelle le sujet sain et rationnel. Quelque chose comme ça. Bien sûr, à chaque fois que l'on voit une étiquette de ce genre apparaître, on se dit, quelqu'un qui se proclame sujet sain et rationnel ou qui identifie une position comme celle de sujet sain ou rationnel, on peut douter de sa santé et de sa rationalité. Mais c'est aussi, bien entendu, ce qui fait son efficacité. C'est ce côté un peu déjanté, disons, qui permet justement de mettre du jeu dans ce qui serait strictement du positivisme pur. Alors, l'une des choses que je veux souligner aussi, je fais comme tout le monde, là, je dis ce dont j'aurais parlé si j'avais parlé, etc. Bien. L'une des choses sur lesquelles j'aurais interrogé Marx, c'est sur ce sur quoi il revient à la fin de 1889 et qu'il essaie de justifier aussi au début, c'est la fameuse question méthodologiquement parlant de la pertinence des années seuil. Des années seuil, 1889, années seuil, vous savez, les Schwellenjahren, donc 1913, 1817, comme Pierre vient de l'évoquer, etc. Donc il y a eu des études comme ça sur les différentes années seuil. Alors jusqu'à quel point, aujourd'hui, l'expérience ayant été faite à plusieurs reprises depuis des perspectives différentes sur des années différentes, jusqu'à quel point peut-on justifier ceci? Peut-on encore imaginer des travaux de ce genre? Alors que de notre site à nous, ce qui est devenu fondamental, ça n'est plus la synchronie, ça n'est pas non plus la diachronie, mais c'est le réseau, la généalogie, les enchaînements, et ainsi de suite. Donc tout ce qui, en réalité, est pratiquement impossible ou ne peut pas avoir de statut si l'on se situe dans la perspective du découpage que permet l'année-seuil. Alors, autrement dit, désolé, mais 1889, c'est impossible désormais. Hein, je crois qu'on ne pourra pas le refaire. Ou alors, ce sera un défi tout à fait intéressant, pas d'essayer de faire 1889 en le prenant, si j'ose dire, verticalement, et non pas horizontalement. On perçoit chez Marx, d'ailleurs, une certaine inquiétude devant tout ceci, lorsqu'il se défend, à certains moments, de vouloir présenter un tableau, comme il le dit, homéostatique. Alors ça aussi, c'est intéressant d'ailleurs dans le vocabulaire utilisé, parce qu'il y a des figures épistémiques qui sont des figures qui elles-mêmes sont chargées de toutes sortes de choses. Hein. Utiliser la notion d'homéostase pour décrire ce que serait le danger justement d'une description statique de ce que serait une année, c'est bien sûr souligner le fait que ce qui nous intéresse, c'est sa dynamique, au contraire, ce dont elle est traversée, ce qui se défait, ce qui se construit, etc. Alors, comment faire ça en se confinant à une année ? Il ne le fait pas, bien entendu, puisqu'il nous parle aussi de ce qui s'est passé en 1830, de ce qui se passera en 1914, etc. Donc, il défait lui-même, il déjoue lui-même sa propre démarche.
Merci, Michel Piersens. À moins d'un désir de prendre la parole, je crois que le temps est maintenant venu de poursuivre nos conversations sur un mode plus informel. Finalement, contre toute attente, Marc Angenot décide de prendre la parole.
Je vais prendre la parole pour ne pas la prendre. J'étais vraiment touché, alors autant le dire en public, de Yann, de Paul, d'Olivier, de Geneviève et de Michel, simplement parce que, bon, il y a quelques plaisirs de vanité ou plaisirs narcissiques à écouter, mais surtout, j'ai, pour la première fois, vraiment découvert qu'on avait lu mon livre. C'est tout un phénomène extrêmement surprenant. Je vais mettre un certain temps à m'en remettre. Vous avez tous été des lecteurs très, très amusants, très perspicaces. Et du reste, en gros, vous avez raison dans tout ce que vous dites. Sauf Michel. Si j'avais à citer un écrivain du 19e siècle dont je me suis dit probablement tôt dans l'adolescence, voilà le genre de choses que je voudrais faire, c'est Henri Monnier. C'est Monsieur Prudhomme, c'est cette capacité extraordinaire d'écoute du langage, mais enfin...
Mais il aurait fallu que tu sois dessinateur.
Oui, justement, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, voilà, merci. Et je redonne la parole à Yann.
Oui, eh bien, merci pour cette intervention, ce mot de la fin que nous n'attendions plus. Je remercie nos quatre participants. Je vous remercie d'être venus ce soir. Et puis, je vous rappelle que la soirée n'est pas terminée, mais qu'elle se poursuit par un cocktail qui va être servi au fond de la salle dans quelques minutes à peine. Alors, merci.